C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 7 février, bonne journée, bienvenue au 98.5, avec un mois de février, chapitre de la météo, un peu, disons, étrange. D'abord, c'est pas chaud ce matin, c'est encore autour de moins 14 avec un ciel dégagé, un début de journée marqué par du soleil, les nuages débarquent en après-midi, il y aura de la faible neige qui va commencer tard cet après-midi, avec un maximum prévu autour de zéro. Le refroidissement éolien, c'est moins 19 pour ce matin. En soirée, la neige va devenir de la bruine intermittente. Ça devrait cesser au cours de la nuit et peut-être aussi de la pluie verglaçante là, en début de soirée. C'est une accumulation de neige supplémentaire de 2 cm. C'est pas énorme, mais ça s'ajoute quand même à ce qu'on a reçu depuis le début. Et température à la hausse pour atteindre plus 4 au cours de la nuit. Dégagement demain matin avec un maximum de 3 degrés. Et quand on regarde une espèce de coup d'œil pour le mois de février, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de période de grand froid. Cette semaine, des températures autour de 3 demain, 1 pour jeudi et 3 degrés pour vendredi. Je commence ce matin par le tremblement de terre, évidemment, en Turquie et en Syrie. C'est un bilan extrêmement lourd. Près de 5000 personnes ont perdu la vie. Probablement que le chiffre va encore gonfler dans les prochaines heures, essentiellement en Turquie et en Syrie. 50 pays ont offert de l'aide pour venir porter secours aux gens qui sont encore coincés. Et je regardais hier certains reportages. D'abord, la météo est un facteur parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui arrivent à se trouver comme une bulle à l'intérieur des décombres d'immeubles comme ça qui s'effondrent. Patrick Lagacé parlait hier après-midi avec un expert en recherche dans des décombres et c'est un Français qui, avec son équipe, était en route vers la Turquie. Et les chiens sont entraînés pour trouver les êtres vivants. Et il y a une fenêtre de quelques jours seulement. On l'a vu dans d'autres pays dans le monde. Je me souviens de l'Italie, je me souviens du Mexique. Mais pour les gens, donc, la météo est un facteur. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture, qui ont peur de se retrouver à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, c'est extrêmement stressant. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que vous avez aussi beaucoup de réfugiés et des structures qui demeurent encore chambranlantes dans le coin. Alors, c'est évidemment extrêmement lourd. Le fait que le tremblement de terre se soit passé la nuit, ça vient alourdir le bilan. Et on le sait que ça a été ressenti non seulement en Turquie, en Syrie, mais dans les pays voisins. On peut penser à Israël, on peut penser au Liban, donc où les gens ont pu noter la secousse comme telle. Alors, c'est comme une course contre la montre pour essayer de trouver encore des survivants qui sont à l'intérieur. Situation en Ukraine, l'armée russe qui, après avoir fait preuve de léthargie pendant peut-être plusieurs semaines, est en train de repasser en mode offensif. Et on est à peu près convaincu que les Russes préparent donc une opération militaire importante. Le rythme des bombardements d'artillerie et des assauts ont augmenté depuis à peu près 3 semaines le long du front du Donbass. Et c'est à peu près 250 kilomètres. Il y a de plus en plus de soldats qui se retrouvent cantonnés près de cette zone de combat. Et ce qui montre très clairement que les Russes préparent une offensive importante. On parle facilement de 300 000 à 500 000 soldats russes. Beaucoup d'entre eux ont été recrutés dans les derniers mois. Et le président ukrainien Zelensky, qui a été invité à participer à un sommet des 27, toujours pour essayer de voir comment on peut évoluer, peut-être vers une solution politique ou encore diplomatique. Et puis, je vous parle des fameux ballons chinois. C'est très étrange, tout ça. Donc, pendant 8 jours, vous avez des ballons qui ont flotté au-dessus de l'Amérique du Nord, haute altitude, Canada, États-Unis, avant qu'on puisse les débusquer. Et finalement, on a abattu ce ballon civil chinois en fin de semaine, et les Américains sont en train de récolter les pièces, les débris du ballon en question. Et là, on apprend ce matin que durant l'administration Trump, il y a eu des phénomènes identiques qui n'ont pas été rendus publics. même qui ont été enquêtés sur le tard. Dans certains cas, les signalements ont été classés un peu comme si c'était un objet volant non identifié, pratiquement comme un engin de l'espace. Et ça a pris du temps avant qu'on puisse confirmer que c'était des opérations chinoises, donc que ce sont des ballons venant de la Chine. Alors, l'espèce d'argument qu'on nous sert, que le ballon a dévié de sa trajectoire, que les Chinois avaient pas de mauvaises intentions, ça tient pas la route tellement. Alors, il y a eu plusieurs incursions depuis, par exemple, les années 2020-2019. Et même, vous avez des gens de l'administration Biden qui ont la non seulement la conviction, mais semble-t-il un certain nombre de preuves que on utilise sur les 5 continents les fameux ballons chinois. Alors, c'est pas un accident, sauf que au début, on savait pas trop c'était quoi. On s'en est pas tellement préoccupé en disant, de toute façon, les Chinois nous regardent avec un satellite, leur satellite, et ça leur donne de l'information. Mais Jean-François le disait, des ballons donnent une précision de lecture quand même plus importante. Un mot également sur la discussion Ottawa-Province pour le financement en santé. Le Globe and Mail dit ce matin que c'est 100 milliards et plus sur 10 ans que M. Trudeau va offrir. Et on sait que la conférence va prendre fin aujourd'hui à Ottawa. Les paramètres, on les connaît. Donc, il y a peut-être 3 éléments à retenir. 1, on maintient les paiements de transfert. 2, on bonifie l'offre, 10 milliards par année. Et on se garde de l'argent pour des ententes bilatérales avec les provinces. On peut penser au Québec pour ce qui est de la santé mentale. Puis on peut penser aussi à tout ce qui concerne le vieillissement de la population. En échange, le fédéral veut s'assurer que les provinces vont pas diminuer leurs investissements en santé, vont utiliser l'argent pour les fins de santé et pas réduire les impôts, comme M. Charest avait fait à l'époque, en recevant l'argent de Stephen Harper, qui était d'ailleurs mauve quand c'est arrivé, et aussi de fournir des informations, une espèce d'indicateur de performance. On a senti que M. Legault était pas chaud à l'idée d'avoir des conditions. Il est prêt à donner, comme on dit, du data, mais il considère que c'est au Québec de décider comment ça va évoluer. Alors, on pense que cette entente pourrait être annoncée officiellement aujourd'hui. Puis là, il va rester toutes ces ententes à attacher avant le prochain budget fédéral. Très bien. Voulez-vous mesurer l'effet Véronique Cloutier? On a un exemple ce matin concernant les femmes qui souffrent de la ménopause. C'est dans Le Devoir. On apprend que des hormones bio-identiques sont en rupture de stock dans les pharmacies depuis que son documentaire « L'auto-méno » a amené le gouvernement à modifier, disons, la liste des produits remboursables, ce qui fait que la RAMQ a décidé de rembourser certaines hormones bio-identiques. Donc, c'est extrêmement populaire. La demande est forte et actuellement, depuis le mois de juin là où c'est remboursé, je me souviens de Christian Dubé qui était avec Véro pour dire voici comment ça a évolué puis qu'on vous a entendu. Alors, c'est une hormone qui doit être prise de façon régulière pour que ça soit efficace, pour atténuer les symptômes persistants de la ménopause. Et on les connaît, bon, entre autres, insomnie, bouffée de chaleur, fatigue extrême. Actuellement, il y a rupture de stock, ce qui amène, paraît-il, des pharmaciens à dire à leurs patientes de peut-être étirer les doses. Et là, vous avez les médecins qui sortent, entre autres, docteur Diane Francoeur, qui est obstétricienne gynécologue, qui dit que ça n'a aucun sens, qu'il y a des femmes qui vont se remettre à avoir des saignements, à ne pas dormir, leur dire de prendre une demi-dose, ça ne marche pas, plusieurs sont inquiètes. Et l'autre élément, ce ne sont pas toutes les hormones qui sont remboursées. Alors, si vous êtes sur le régime public, on vous rembourse une hormone. Si vous êtes avec des assurances privées, ben le choix serait peut-être un peu plus grand. On va y revenir ce matin parce que c'est important. Là, c'est de dire, un, on donne accès, mais l'accès, la demande très forte, amène, semble-t-il, cette rupture de stock. Ensuite, ce matin, ben il y a le dossier Roxham. 2-3 éléments. D'abord, la presse nous dit qu'au cours de la dernière année, il y a 10 enfants seuls qui se sont présentés sur le chemin Roxham. On l'a documenté aux États-Unis, on l'a vu là à la frontière du Mexique et du Texas, mais le nombre de mineurs qui ne sont pas accompagnés d'adultes Ça a augmenté par 5 depuis le début de la pandémie. On est à 115 en 2022, selon les chiffres obtenus par la presse. Et ils viennent de plusieurs pays, là. Alors, ils transitent par le chemin Roxham, mais on les trouve sur la liste de gens qui sont originaires de l'Afghanistan, de la Turquie, l'Angola, Venezuela, Mexique, Pakistan, Congo, etc. Et alors, ça demande, disons, ça amène un coefficient de difficulté encore plus élevé. Et puis hier, qu'est-ce qu'on apprenait du côté américain? Parce que là, l'immigration est un enjeu majeur du côté américain. Puis on a vu là la Floride, on a vu le Texas mettre des immigrants en disant « Vous voulez venir dans telle ville en Floride, ça va vous coûter la totale. » Par contre, si on vous envoie à New York, si on vous envoie à Washington, si on vous envoie là où se trouvent les bien-pensants démocrates, ben c'est gratos. Fait que là, t'as un paquet d'immigrants, il y en a 42 000 qui sont arrivés à New York. Puis la ville de New York veut s'en débarrasser à son tour et offre, puis là c'est à mots couverts, mais ça revient au même, là. On donne des billets gratuits vers Plattsburgh. Puis on n'est pas innocent, là. Une fois rendus à Plattsburgh, ils peuvent être pris en charge par des passeurs qui leur extorquent le peu d'argent qu'ils ont et passent par le chemin Roxham et entrent au Canada puis demandent le statut de réfugié. Et tout ça a été confirmé par le bureau du maire de New York. On aura également l'occasion d'y revenir. Pour ce qui est maintenant de la nomination controversée de Mme El Gawabi à son poste de commissaire fédéral ou d'émissaire fédéral à la lutte contre l'islamophobie. Alors, c'est le Festival des pétitions, une nouvelle lettre signée par 200 personnes, plusieurs membres de la communauté musulmane, qui recommande non seulement son départ, mais carrément l'abolition du poste en disant « ça n'a pas son utilité, on peut lutter contre la xénophobie, le racisme sous toutes ses formes, et pourquoi en faire un cas précis avec l'islamophobie ?» Et M. Trudeau persiste et signe, continue dans la même direction. On apprend ce matin que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, se retrouve avec des problèmes de dépenses électorales. On va essayer de résumer, c'est dans le Journal de Montréal. Elle a organisé une soirée de financement avec des humoristes. Et on avait annoncé Philippe Bande, Maud Landry, Martin Petit, Stéphane Fallu, Mario Jean et plusieurs autres. Sylvain Larocque, qui était d'ailleurs candidat. Et ils ont reçu quelques montants très symboliques pour participer à la soirée. Au total, il y a des dépenses qui n'ont pas été déclarées d'à peu près 7 000 $, donc des montants qui étaient, disons, liés à l'organisation de la soirée. Ça a été nié par le bureau de la mairesse, puis finalement, ils ont reconnu avoir fait une erreur, puis ils mettent ça sur le dos de l'agente officielle. Mais disons que elle va devoir, et son parti, légitimer le tout avec Élections Québec pour être certain qu'il n'y a pas des sanctions, si vous voulez, qui vont s'ajouter. Puisqu'on reste en politique, il y a encore la députée Emmanuela Lambropoulos du Parti libéral qui est dans le délire, qui nie le déclin du français ou les menaces qui pèsent sur le français et qui aime beaucoup inventer des histoires de pauvres anglophones qui ne peuvent se faire traiter en anglais comme c'était interdit puis que les médecins qui osaient faire ça seraient mis en prison par la police de la langue française. Et elle a beau là, se faire ramasser puis de se faire dire que c'est du délire, elle s'amuse avec ça puis elle partage ça sur les réseaux sociaux. Et elle souhaite créer une espèce de mouvement de gens qui vont l'appuyer. Puis il y a peut-être son collègue House Father qui pourrait faire ça. Marc Garneau, qui a été un gars bizarre depuis le début, qui lui aussi, quand on le sait, a défendu des propos, sur, disons, ambigus sur les besoins de mieux protéger le français. Alors, dans la presse, vous retrouvez ça ce matin. On va parler de suicide. Il y a moins de cas, heureusement, c'est la bonne nouvelle. Par contre, les urgences des hôpitaux sont très sollicitées. Plus les femmes, les filles, qui demandent de l'aide, qui se présentent, les gars un peu moins. Mais c'est clair que ça cogne beaucoup à la porte. Puis on a vu quelques ratés dans les derniers mois de gens qui n'ont pas été pris en charge puis qui, malheureusement, se sont enlevés la vie. Alors, on va en parler avec la présidente de l'Association des psychiatres du Québec. Également, Québec solidaire se prépare pour son conseil national. Ça va être intéressant à suivre. Là, c'est l'autopsie des élections. Et paraît qu'il y a beaucoup de griefs à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois, notamment d'avoir fait une campagne conventionnelle, axant sur le porte-parole, les photos de famille, le bébé pour faire « très people ». Alors, beaucoup de gens chez Québec solidaire considèrent qu'il a comme fait de l'ombre à Manon Massé. Ça, c'est un. Deux, on veut s'assurer que des comtés prenables par Québec solidaire soient détenus par des femmes. Comment tu fais ça, là, pour dire, voici la mécanique qui va faire en sorte que plus de femmes soient élues députées? Ça peut se faire, mais disons que c'est une gymnastique quand même assez complexe. Et puis, ce matin, je veux vous parler également de Air Canada. Je vais finir avec ça. J'ai plein de gens qui m'écrivent, là, puis c'est la période des vacances, puis les gens partent vers le soleil. Incapables d'avoir des informations chez Vacances Air Canada. Des gens qui s'y prennent au téléphone, qui essaient par les réseaux sociaux. Ils dépensent de la pub, évidemment, pour nous dire à quel point ils sont efficaces. Et dans les faits, là, puis les gens qui m'écrivent, là, qui ont passé plusieurs jours en ligne pour essayer de trouver une réponse sur leur voyage, sur leur forfait. Une auditrice me dit, c'est la première fois que je fais affaire avec eux, puis c'est la dernière, c'est l'enfer. Puis l'autre chose qui est importante de noter, c'est que la fameuse charte des voyageurs, là, qui remonte à l'époque du ministre Marc Garneau, on sait tous là que c'est du vent, que le voyageur n'est pas très bien protégé, que c'est pas vrai que vous allez avoir des dédommagements. La charte est d'une timidité. C'est une charte moite qui n'a rien à voir avec les protections qui sont accordées par les transporteurs aériens en France, par exemple. On comprend la météo, mais la météo ne peut pas tout expliquer. Il y a encore des gens qui m'ont envoyé des photos de bagages perdus, des tonnes de bagages qui sont accumulés à l'aéroport. On pensait que la crise était pour s'éténuer. Ben, il semble que non. Alors, je vous dis juste d'être extrêmement vigilant quand vous faites vos réservations, parce que vous pourriez avoir des surprises. Et mon Dieu que c'est compliqué chez Air Canada. Mon Dieu que le service à la clientèle est mauvais. Je parle pas des gens à bord des appareils, personnel de bord, les pilotes. Je vous parle des gens du marketing puis du service en ligne.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Pierre vient d'en parler. Évidemment, ce début d'année, on se questionne un peu sur ce que sera 2023. On regarde les marchés depuis le mois de janvier. Disons que ça se déroule assez bien. Il y a d'autres indicateurs qui sont peut-être moins positifs. Et il y a Desjardins qui a présenté hier ses perspectives économiques et financières pour 2023. Jimmy Jean, le vice-président économiste en chef de Desjardins, est avec nous. Monsieur Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous avez l'air peut-être d'un optimisme très, très modéré par rapport à d'autres.
Je dirais que au début de l'année, on a constaté quand même plusieurs surprises positives. On a eu évidemment les données renversées, je dirais, sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière. Il y a eu l'effet de la réouverture en Chine. On appréhendait peut-être une crise énergétique en Europe en fin d'année passée. Or, on a constaté que les températures clémentes puis aussi les efforts de conservation d'énergie des ménages ont éloigné ce risque-là. Donc, il y a des indicateurs qui sont allés dans un sens positif. Par contre, sur la question de l'optimisme, je pense qu'il faut être prudent. Ça pourrait les bonnes nouvelles en ce moment pourraient en fait signaler des mauvaises nouvelles pour plus tard, étant donné que les banques centrales risquent aussi d'être préoccupées par la question de l'inflation.
OK, je vais y aller avec un certain nombre d'indicateurs, puis je veux vous entendre là-dessus. Par exemple, les taux d'intérêt, est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint le sommet ou s'il pourrait y avoir d'autres hausses en 2023?
Nous, on pense que, du moins au Canada, à 4,5%, la Banque du Canada l'a très bien signalé, elle est prête à prendre une pause et à observer le plein effet des hausses de taux qui ont été décrétées en 2022. On sait que ce plein effet-là est encore devant nous. Donc, à 4,5%, on prend une pause. La question, c'est vraiment, ça va être quoi le prochain geste? Parce que dans les anciens cycles, quand une banque centrale prend une pause, habituellement, le prochain mouvement, c'est à la baisse. Or, dans le cas actuel, si on a une inflation qui ne se modérait pas suffisamment, donc nous, on s'attend à ce que l'inflation revienne à environ 2,5% à la fin de l'année, ce serait acceptable. Mais évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. S'il fallait que ça soit plutôt 3,5% ou encore 4% à la fin de l'année, ben il y a fort à parier que la Banque du Canada voudrait en faire un petit peu plus pour être certaine de ramener l'inflation à 2%. Donc, je pense que plus que dans un ancien cycle, il y a des risques élevés que la Banque du Canada doit décréter des hausses de taux supplémentaires, surtout s'il survient d'autres chocs, des chocs d'offres, par exemple, au niveau mondial, une escalade en Ukraine ou d'autres genres de pression inflationniste.
Parce que la question que les auditeurs se posent, c'est, on constate les hausses de taux d'intérêt, puis ça nous touche pour le prêt hypothécaire, la marge de crédit, bon, les prêts personnels. Est-ce que je vais devoir payer plus cher pendant encore longtemps? Ce que vous avez l'air de me dire, c'est oui.
Oui, je pense que quand on regarde ce que la Banque du Canada risque de tolérer en termes de faiblesse économique avant de donner un certain répit en baissant les taux, ben ça risque d'être plus important que ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des banques centrales voler au secours de la croissance. Je pense pas que ça va être le cas dans la situation actuelle parce que on a été chaudé par l'inflation puis on voudrait pas l'échapper de nouveau. Donc, on risque d'errer du côté de la prudence, en voulant dire de garder les taux élevés plus longtemps pour vraiment s'assurer de garder particulièrement les anticipations d'inflation sous contrôle. Donc, je pense qu'il faut réaliser qu'on est dans un nouveau régime de taux d'intérêt plus élevé. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui sont pas habitués à ça. Vous avez parlé des marchés financiers tout à l'heure. Il y a beaucoup d'optimisme quant au fait que les banques centrales, s'il y a une récession, elles vont baisser les taux de manière très agressive, très précipitée. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus.
OK. Pour ce qui est de l'emploi, bon, plusieurs secteurs cherchent désespérément des employés, probablement tous les secteurs. Il y a les technos, on le voit, le Google qui commence à faire des mises à pied au Canada, puis d'autres. Est-ce qu'on s'en va vers un marché où on cherche des travailleurs ou si on se retrouvera bientôt dans une situation où il y aura des mises à pied dans beaucoup de secteurs?
C'est ça qui est particulièrement fascinant en ce moment parce qu'on vit les deux en même temps. On a des mises à pied, vous avez mentionné le secteur technologique et le secteur financier aussi aux États-Unis. Il y a aussi le secteur des médias. On en entend de plus en plus parler. Or, c'est vrai que les pénuries de main-d'œuvre restent importantes. Les postes vacants aux États-Unis ont augmenté. Ici, les postes vacants restent à des niveaux très élevés, même si les pénuries de main-d'œuvre, on voit des petits signes de soulagement, mais il reste que c'est encore historiquement très élevé. Donc, dans certains secteurs, pour certaines entreprises, on va plutôt être en mode profiter de la situation où est-ce que il va y avoir plus de talent disponible pour aller en chercher. Et aussi, on va travailler pour tenter de retenir les travailleurs le plus possible. Je pense que les coûts de retenir puis d'aller chercher de la main-d'œuvre, ça a tellement monté, c'est tellement rendu difficile que les entreprises veulent tout faire pour éviter de perdre leur talent. Cela dit, je pense qu'il y a des secteurs quand même où on n'y échappera pas, les secteurs particulièrement qui sont sensibles à la baisse des dépenses discrétionnaires des ménages, aussi à l'immobilier dans un contexte de taux très élevé. On sait que l'immobilier, si on peut parler de récession en ce moment, c'est dans l'immobilier, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est certain qu'il faut s'attendre à des mises à pied dans ces secteurs-là. Mais il y a d'autres secteurs qui ne seront pas touchés et où il y a des pénuries de main-d'œuvre, par exemple la santé, l'éducation. C'est des secteurs où est-ce que la demande va continuer à être très, très élevée.
OK. Je vais vous demander d'analyser pour moi la nouvelle diffusée par Radio-Canada. Là, ça fait quelques heures. En fait, c'est une entrevue avec le PDG du port de Montréal qui dit que les conteneurs empilés qu'on a connus, l'engorgement, la pénurie de conteneurs, tout ça est chose du passé, qu'on est maintenant face à un ralentissement de l'activité économique dans le port de Montréal. Ça veut dire quoi en pratique, ça?
Ça veut dire, et ça on s'y attendait honnêtement, il y a eu trop de commandes durant la pandémie alors que les ménages consommaient beaucoup de biens, ne pouvaient pas consommer des services, des voyages, des choses comme ça. Donc, ils se sont rabattus sur les biens et il y a eu des situations où les entreprises, face à des pénuries, ont commandé, ont surcommandé. Maintenant que le profil de consommation revient vers la normale, les gens voyagent plus, dépensent moins en biens, ben on est prêt avec des surplus d'inventaire et aussi les problèmes de goulot d'égorgement qui a qui affectait le système logistique mondial. Ça, c'est résolument derrière nous. Tous les indices le montrent. Donc, ça fait en sorte que particulièrement dans les biens, on voit de la désinflation. Puis même qu'en 2023, on va voir des baisses de prix, des rabais. Donc, oui, ça va contribuer à faire en sorte que l'inflation devrait revenir tranquillement à sa cible. La question, ça va être plus à savoir est-ce que les pressions salariales, est-ce que les loyers vont aller dans l'autre sens, qui va faire en sorte qu'au total, ce sera insuffisant pour la Banque du Canada. Mais c'est vrai, dans les biens, dans les échanges internationaux, il y a clairement un ralentissement et il est à place poursuivre.
OK. Alors, en conclusion, pour mes auditeurs ce matin qui se disent j'ai un bon revenu familial, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une marge de crédit. Qu'est-ce qu'on doit faire en 2023? C'est quoi la meilleure approche là pour bien gérer ses finances personnelles?
Ben moi, je pense qu'il faut être prudent, il faut épargner, il faut rembourser de la dette. D'ailleurs, c'est ce que les taux d'intérêt nous donnent comme incitatif. C'est de tenter de rembourser sa dette le plus possible. Si on a une marge de crédit qui traîne, au lieu de dépenser ça dans quelque chose qu'on n'a pas besoin, c'est peut-être mieux de penser à rembourser ça. Se positionner aussi en vue de la possibilité d'une perte d'emploi. Donc, analyser sa situation. Est-ce que mon emploi est sécuritaire? Est-ce que je risque d'être mis à pied? Si je suis mis à pied, est-ce que ça va prendre du temps avant que je retrouve un emploi? Ce genre de questions-là, faire en sorte qu'on a le plus de liquidité possible pour s'il arrive un pépin, on est capable de passer à travers. Nous, on pense que ça va être une récession assez légère et passagère, mais il faut pas oublier non plus que dans l'historique, nous, les économistes, en général, on a eu tendance à sous-estimer l'ampleur des récessions. Donc, vaut mieux être prudent si on est un ménage, si on est particulier ou une entreprise, s'assurer d'être capable de passer à travers.
Monsieur Jean, merci. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Jimmy Jean est vice-président, économiste en chef du Mouvement Desjardins.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Donc, encore une fois, bilan de ce double tremblement de terre en Turquie. Et on est à plus de 5000 morts, incluant les gens qui ont perdu la vie en Syrie. L'état d'urgence a été décrété. On est toujours à la recherche de survivants. C'est évidemment dans un contexte difficile, il fait froid. Et tous ces décombres, ces immeubles qui se sont effondrés. On va se rendre tout de suite en Turquie, retrouver Shona Batacharia, qui est correspondante pour France 24. Shona Batacharia, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être nous dire là le dernier bilan, qu'est-ce qu'on a exactement, qu'est-ce qu'on sait?
Alors, vous savez, un bilan dans une catastrophe pareille, c'est pas encore vraiment ça, c'est-à-dire que chaque minute, chaque heure, moi je l'ai vu moi-même s'alourdir ce bilan. Je suis actuellement à Antakya, donc la ville dans la province de Hatay, dans le sud-est de la Turquie. J'ai vu des corps par terre qui avaient été sortis des décombres sous des draps dans des bâches en plastique. C'est juste le bilan, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui donne un peu l'idée, mais en fait, on n'aura pas le vrai bilan avant des semaines, sinon des mois. C'est pas possible. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment la guerre sans la violence. C'est vraiment ici, dans cette ville, c'est des dizaines et des dizaines d'immeubles, de magasins, de stations-service. Mais tout par terre avec souvent des gens qui sont encore à l'intérieur et parfois des proches qui eux ont réussi à sortir ou alors étaient dans un autre immeuble qui ne s'est pas effondré et qui du coup viennent écouter pour voir s'il y a des signes de vie à l'intérieur de ces décombres. Moi-même j'ai entendu des sons, on a l'impression qu'il y a des gens encore qui appellent, ça fait plus de 24 heures, qui appellent à l'aide. Et si on ne fait pas vite, dans quelques heures, il sera trop tard.
Est-ce que l'aide internationale se matérialise? Je disais ce matin qu'il y a des équipes d'urgence qui arrivent un peu partout à travers le monde. Comment les gens arrivent à fouiller les décombres, toujours à la recherche de survivants?
Alors, pour les équipes internationales, il y aurait dans les 2600, je crois, volontaires, enfin envoyés par d'autres pays, et qui sont sur place. D'autres doivent arriver dans les heures qui viennent. Mais vous savez, la question des moyens, c'est extrêmement délicat. Vous avez un immeuble qui s'effondre avec plusieurs étages, avec des gens entre les étages, avec des gens qui sont vivants ou pas. Et là, pour les extraire de là sans faire plus de mal, vous avez un bulldozer, par exemple, pour enlever les décombres, pour aller au plus près des gens qui sont ensevelis. Mais en même temps, avec un bulldozer, vous risquez de peser encore plus lourd sur les décombres et d'écraser encore plus les gens à l'intérieur. C'est extrêmement délicat. Et d'ailleurs, ici à Antakya, les habitants sont très, très en colère parce qu'ils ont l'impression d'avoir attendu plus que les autres villes sinistrées pour avoir de l'aide. Et que enfin, quand l'aide a commencé à venir ce mardi matin, qu'ils n'avaient pas forcément les équipements pour. Donc là, on a un pont aérien militaire, on a des bulldozers qui arrivent, on a des ambulances dans tous les sens, ça commence à prendre, mais c'est vrai que ça fait plus de 24 heures maintenant que ce double séisme a frappé. Un dernier mot sur Antakya, sur cette ville. Nous sommes à plus de 200 kilomètres de l'épicentre, mais pourquoi est-ce que ça a été si fort ici? C'est parce que cette ville, qui est très très ancienne, elle est sur une ligne de faille, la même ligne de faille qui va directement à l'épicentre de ces deux tremblements de terre de lundi.
Est-ce que la météo est vraiment un enjeu? Est-ce que les conditions sont difficiles? Est-ce que le froid, là, vraiment frappe?
Alors, là où je suis, il a fait très, très moche le jour même, à 4 heures du matin, heure locale, lundi matin, quand il y a eu le premier séisme, il pleuvait, il faisait très froid. Il fait très froid la nuit ici parce qu'on est très, très haut. On est vraiment au pied des montagnes. Et puis juste là, je suis entourée de montagnes avec de la neige. En revanche, il fait beau aujourd'hui. Alors ça, c'est une bonne chose. Il ne pleut pas et il fait relativement doux. Il fait 11-12 degrés. Le problème, c'est la nuit. La nuit, quand il fait 0, moins 20, et que ces gens qui sont encore sous les décombres doivent attendre dans le froid que l'aide arrive avec dans ces moments-là, des conditions météo très très difficiles.
Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec nous, Shona Bhattacharya, qui est journaliste correspondante en Turquie pour France 24. On dit également que les survivants, beaucoup sont inquiets, nerveux, on le serait à moins, et s'installent dans leur voiture, restent à l'extérieur. La nuit, c'est pas jojo. Et refusent d'aller vers des endroits qui sont encore debout, si on veut. Donc, ça fait beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de gens qui vivent aussi d'espoir pour que on puisse localiser des survivants.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On a beaucoup parlé du chemin Roxane dans les derniers jours. Puis hier, le New York Post nous apprenait que l'arrivée de migrants en provenance de New York sur le fameux chemin Roxham a évidemment été en partie financée par la ville de New York. Richard Châteauvert est avec nous. Et Richard, il y a des centaines de migrants qui sont arrivés depuis la semaine dernière après avoir pris l'autocar de New York à Plattsburgh avec des billets offerts par la ville de New York, donc des billets payés. Et le maire de la ville lui-même reconnaît qu'il offre des billets aux gens pour qu'ils puissent aller à Plattsburgh.
Oui, à la suite de l'arrivée massive de migrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud depuis l'été dernier, la ville de New York a créé un programme visant à relocaliser les migrants qui souhaitent quitter New York. Les destinations sont limitées au territoire américain car les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à quitter les États-Unis après le dépôt de leur demande. Plattsburgh se trouvant aux États-Unis, il s'agit d'une destination légale. Le maire Adams a cependant déclaré dans une entrevue « Certains souhaitent aller au Canada, d'autres souhaitent aller dans des États plus chaud, nous sommes là pour eux. Certains migrants ont été vus déchirant leur demande d'asile américaine avant d'entrer au Canada. Le New York Post estime qu'au moins 100 migrants en provenance de New York entrent sur le chemin Roxham chaque jour depuis la semaine dernière. D'ailleurs, des vidéos de migrants entrant sur le chemin Roxham sont postées sur TikTok. Il est beaucoup plus facile aussi pour un migrant d'obtenir un permis de travail au Canada qu'aux États-Unis. Et les migrants ont entendu parler de la politique d'accueil du premier ministre Justin Trudeau. La ministre québécoise de l'immigration, Christine Fréchette, a mis en question, et je cite, « la pertinence de payer des tickets pour aller au Canada ». La situation a également été dénoncée par Élise Stéphanik, républicaine de la Chambre des représentants, qui représente la circonscription qui englobe Plattsburgh.
Oui, mais là, il faut dire qu'il y a un contexte très particulier. On a vu tous ces migrants-là, des dizaines, des centaines, qui ont débarqué à New York. Il faut peut-être juste rappeler justement le pourquoi de ça.
Bon, l'an dernier, plus d'un million et demi de migrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est un plus haut depuis 1960. Le Texas a été l'État le plus touché et le gouverneur républicain Greg Abbott a commencé à envoyer des migrants à Washington, puis à New York. D'autres gouverneurs ont suivi, même un démocrate, le gouverneur du Colorado. Depuis, près de 45 000 migrants sont arrivés à New York, ce qui a poussé le système d'aide à ses limites. La majorité des migrants sont logés dans des refuges, y compris des hôtels qui ont fermé leurs portes. Il y en a 1000 au terminal des paquebots de croisière de Brooklyn. Le maire Eric Adams estime que l'aide à ces migrants va coûter 2 milliards de dollars à la ville et il fait pression sur l'administration Biden, à laquelle il réclame 1 milliard. On va voir ce que le président Biden va dire sur la question des migrants dans le discours sur l'état de l'Union qu'il va prononcer ce soir. Faut dire, Paul, qu'un migrant arrivé récemment à Montréal a dit regretter sa décision. Le New York Post lui a demandé pourquoi. Il a répondu « mucha nieve », beaucoup de neige.
Ça, c'est sûr. Beaucoup de pluie à New York, par contre. Merci beaucoup, Richard, pour cette mise à jour.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, hier, on a eu le plus récent rapport de l'Institut national de santé publique sur le suicide ou les comportements suicidaires. Ce que l'on note, c'est que le taux de suicide est en baisse, premier constat, mais que l'appel à l'aide, notamment en allant dans les salles d'urgence, serait en augmentation. Docteur Claire Gamache est avec nous, psychiatre et présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Docteur Gamache, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, le fait qu'il y ait, semble-t-il, une baisse du taux de suicide, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même d'autres indicateurs qu'il faut regarder.
Absolument. En fait, ce qui nous réjouit, c'est qu'effectivement, tous les efforts de prévention en suicide dans les 20 dernières années ont fait que les taux de suicide ont diminué. Mais il reste évidemment énormément de travail à faire pour que chaque suicide soit bien analysé puis s'assurer qu'on en ait encore de moins en moins.
Là, je regarde rapidement les chiffres puis je vais vous entendre là-dessus. Le taux de suicide, 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ça a toujours été comme ça?
Oui. Malheureusement, j'ai tendance à dire que le système hospitalier puis le système de services de santé est un peu comme les écoles. On a tendance à être un petit peu moins efficace et fantastique là, quand c'est le temps de recevoir des hommes. Puis on a aussi tendance à élever les hommes avec l'idée que c'est pas évident d'exprimer sa détresse puis d'exprimer le fait qu'on a besoin d'aide. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut qu'on modifie là à tous les niveaux.
Je note aussi qu'il y a une tendance légère là, à la hausse chez, pour les cas de suicide chez les femmes de 65 ans et plus.
Oui, ça, c'est nos gérontopsychiatres, puis toutes les gens qui travaillent avec les aînés là, qui nous disent qu'effectivement, puis probablement que les chiffres sont pas tout à fait vrais, là, dans la mesure où il y a même des gens qui font des espèces de suicides passifs, là. Fait que oui, effectivement, c'est une clientèle, il faut absolument s'assurer là, qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur l'isolement des personnes âgées, sur d'avoir des services de soutien là un peu partout dans les CHSLD. En fait, c'est partout. Il faut que toute la gamme de services psychosociaux, il faut que les écoles, il faut que les ressources auprès des aînés soient capables de parler de suicide, soient capables de questionner les gens très simplement. Il faut vraiment essayer d'améliorer la littératie là, à la fois de la population et à la fois de tous les services qui sont autour des gens pour être capable de continuer de parler de mieux en mieux de suicide pour que les taux de suicide continuent de diminuer.
Mais là, je veux comprendre pourquoi il y a cette augmentation chez les gens plus âgés. C'est la solitude, c'est la détérioration de l'état général de santé?
On n'a pas toutes les raisons encore. Là, ça fait plusieurs années là, qu'on voit qu'il y a une certaine fragilité chez cette population-là. J'ai pas les réponses là exactes, mais effectivement qu'il y a des enjeux de solitude très importants qu'il faut gérer. Il faut aussi s'assurer que on va au-devant des gens là. Si on fait du maintien à domicile et tout ça, faut être présent. Puis il faut que les gens qui fassent ce genre de service-là développent aussi des capacités là, de recevoir la détresse psychologique, puis de la nommer, puis d'en parler.
OK, mais là, je veux m'attarder au phénomène des plus jeunes. Ce que je comprends, là, puis c'est plus vrai encore chez les filles, mais que les ados puis les jeunes adultes ont tendance à dire les choses, ont tendance à vouloir consulter, puis à se rendre dans les salles d'urgence.
Absolument. Le probablement qu'on a réussi à apprendre à nos jeunes à exprimer leur détresse. C'est sûr que là, ils l'expriment beaucoup en parlant d'idées suicidaires. Hein? Puis les idées suicidaires, là, faut comprendre que chez 225 personnes là par année qui vont parler d'idées suicidaires très sérieuses, il va y avoir un seul suicide. C'est un trop, il faut y travailler, il faut faire des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé, mais l'expression d'idées suicidaires est de plus en plus importante, beaucoup encore chez les jeunes et les adolescentes. Fait qu'il faut aussi que là, les services soient adaptés pour recevoir cette expression de détresse-là. Et c'est pas juste la salle d'urgence. Hein. La salle d'urgence devrait, en principe, être le dernier recours. On devrait être capable d'en parler à l'école, d'en parler aux travailleurs sociaux qui sont dans les écoles, d'en parler au CLSC, d'en parler à l'équipe autour du médecin de famille, d'en parler au centre jeunesse. Puis tous ces gens-là ont des formations pour l'évaluation du risque suicidaire. Puis tous ces gens-là savent quand amener les jeunes à l'urgence.
Mais est-ce que, j'allais dire, c'est bien que les jeunes... parlent de ce qu'ils vivent, consultent, se rendent à l'urgence. Je peux pas m'enlever de la tête le cas d'Amélie Champagne, cette jeune femme qui a fait une tentative de suicide, qu'on a échappé dans le système, qui s'est retrouvée à Montréal, puis qui s'est finalement enlevée la vie. Je sais qu'il y a une enquête du coroner, là.
Oui.
Mais j'ai l'impression que le système, là, invite les gens à dire, ben faut le dire, faut ventiler quand on a des idées comme ça. Mais on est-tu capable de les accueillir puis de les traiter convenablement ou si c'est trop gros puis qu'on n'a pas les ressources nécessaires puis qu'on les échappe?
On a des comme je vous dis là sur 225 personnes que je vais voir dans une urgence qui expriment des idées suicidaires sérieuses, il y en a une qui va se suicider. J'ai plein d'exemples là qu'on voit puis on sauve des vies, là, c'est clair. En même temps, c'est vrai que d'échapper quelqu'un comme Amélie, c'est un drame incroyable. Hein? Le suicide, c'est un échec collectif à bien dépister la détresse puis à offrir l'aide appropriée. Alors, c'est clair que là, il y a une enquête puis on n'a pas les conclusions encore. Mais idéalement, toutes les personnes qui se présentent dans les urgences, qui se présentent dans les services, se sentent entendues, reconnu puis protégé, puis il faut faire des enquêtes pour s'assurer de comprendre, puis il y a des gens qui font des audits là là-dessus au Québec là. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens-là ont pas ressenti ça puis qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais, mais docteur Gamache, encore j'ai le cas d'Amélie Champagne en tête. Elle a consulté une première fois à Douglas, on lui a donné une ressource et cette ressource est manifestée après son décès. C'est comme s'il y avait pas d'arrimage entre ce qui se passe à l'hôpital puis ce qui se passe dans la communauté.
Je vous invite, vous avez vu l'article de Mme Leduc là, dans la presse ce matin. Je travaille à Laval, là, puis les chiffres de Laval ont l'air assez impressionnants. Je pense qu'effectivement, il y a des liens très étroits. Puis Laval, c'est une région, c'est comme un gros village. Puis oui, il y a des liens très étroits entre le service de crise, l'urgence, le guichet d'accès, les omnipraticiens, puis même la police, hein, le responsable, le travailleur social de police, il y a notre cellulaire à l'urgence, on a le sien. Fait que oui, c'est vrai qu'il faut que ces arrimages-là soient beaucoup plus étroits. Il faut s'assurer que les liens se font rapidement. Dans le plan d'action santé mentale qui s'en vient, on a de ça, des équipes de crise qui vont pouvoir recevoir les gens rapidement après l'urgence. Fait que oui, vous avez raison, il faut qu'on s'améliore, là, c'est clair.
OK. Pour être bien pratico-pratique, là, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous écoute ce matin, là, qui s'en va travailler, qui s'en va étudier, puis qui a des idées sombres, pas nécessairement suicidaires, quelqu'un qui va pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'elle devrait peut-être faire pour qu'on puisse l'aider?
La première chose à faire, c'est d'en parler. C'est d'en parler à sa famille, c'est d'en parler à ses proches. On a une ligne d'écoute au Québec qui s'appelle le 811, puis on fait le volet 2, puis on va parler à quelqu'un qui va pouvoir nous orienter dans le système. On peut en parler à des collègues, on peut en parler, il faut en parler. Puis une fois qu'on en parle, il faut s'assurer qu'on a une réponse. Si nous, on n'est pas capable de faire le 811, quelqu'un au travail peut le faire pour nous, quelqu'un à la maison pourrait savoir un peu où est-ce qu'on peut aller cogner pour avoir des services. Ça peut être la travailleuse sociale du GMS, ça peut être l'infirmière qui travaille avec notre médecin de famille, ça peut être un service de crise qui va rapidement. Les hommes, là, faut aller les voir souvent dans la communauté. Ils voudront pas nécessairement aller s'asseoir avec un intervenant dans un bureau. Fait qu'il faut que, oui, une équipe de crise aille à domicile discuter avec cette personne-là. Fait qu'en faisant le 811, on va trouver une façon d'aller répondre à cette détresse-là, mais il faut en parler autour de nous. Puis si on sent qu'on est trop inconfortable pour rester seul, il faut aussi travailler sur la consommation. Hein, on sait que le taux de suicide est important, surtout dans des contextes de dépendance. Il faut s'assurer que quand on va pas bien, on consomme pas. On consomme quand ça va bien, puis quand on est sur le party, puis c'est le fun. Mais quand on fait le pas, on évite l'alcool, puis on évite la consommation importante.
OK, puis la dernière question, si quelqu'un se confie à moi quand c'est ma fille, quand c'est un collègue de travail, quelle devrait être mon attitude, la meilleure attitude?
La première attitude, c'est de rester là, puis d'être capable d'entendre cette détresse-là. Ce qu'on voit beaucoup dans les urgences, c'est des gens qui sont un peu en panique dès que les jeunes nous expriment leur détresse. C'est pas dangereux d'avoir des émotions négatives. C'est pas dangereux. Il faut enseigner ça à nos enfants, il faut enseigner ça à l'école. Les émotions négatives, ça fait partie de la vie, puis ça fait qu'on va grandir. Mais donc, on reste devant cet enfant-là qui est en détresse, puis on lui dit qu'ensemble, on va réfléchir à des solutions. Puis on essaie de comprendre pourquoi cette jeune-là ou ce jeune-là vit des choses difficiles, puis on essaie de voir où est-ce qu'on peut cogner pour avoir de l'aide pour ça.
Merci beaucoup, Dr. Gamache. Bonne journée.
Bienvenue.
Au revoir. Dr. Claire Gamache, qui est psychiatre et présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, on peut peut-être appeler ça l'effet Véronique Cloutier, mais vous vous souvenez de son documentaire L'Auto-Méno, donc sur la ménopause, et qui mettait en lumière le fait que beaucoup de femmes avaient de la difficulté à obtenir des hormones, à obtenir... forme de traitement, pression sur le gouvernement, ce qui fait en sorte que la Régie d'assurance maladie du Québec, au mois de juin, décidait de rembourser un traitement. Il y a eu comme une espèce de vague de telle sorte qu'on se retrouve, semble-t-il, depuis quelques semaines, nous dit Le Devoir ce matin, avec une rupture de stock. Et il y a des pharmaciens qui diraient aux patients d'étirer le traitement. Puis beaucoup de spécialistes pensent que c'est pas la bonne chose à faire. J'en parle avec Dr Diane Francoeur, qui est obstétricienne gynécologue à Sainte-Justine. Dr Francoeur, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Peut-être d'abord nous parler de ce traitement en question là aux hormones bioidentiques. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, puis pourquoi c'est important?
Ben, ce qui est important, c'est qu'on s'est aperçu que les femmes, on leur avait peut-être fait peur là, avec les fameuses études des années 2010 qui mettaient en lumière un risque cardiaque. Puis on s'est aperçu que les données n'étaient pas si solides. Et quand on creusait davantage, on voyait qu'il y avait vraiment un besoin pour une hormonothérapie et que c'était sécuritaire. Donc, il y a différents traitements. Chaque femme a des symptômes différents. Les fameuses hormones bioidentiques, ben évidemment, je pourrais dire c'est la Cadillac de l'hormonothérapie dans le sens que c'est ce qui a le moins d'effets secondaires, qui convient le mieux aux femmes, qui est plus stable. Et on sait que si on regarde ça juste au niveau de la pénurie de ressources humaines qu'on a partout présentement, si on est capable de garder les femmes entre 45 et 65 ans sur le marché du travail, confortables parce qu'elles dorment la nuit, qu'elles n'ont pas des bouffées de chaleur qui les réveillent plusieurs fois par nuit, ben je pense qu'on est tous gagnants dans tout ça. Et en premier, les femmes elles-mêmes.
OK. Parce que là, visiblement, il y a eu comme un effet un peu d'entraînement, puis qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont prescrit et tout ça. Quand des pharmaciens disent, par exemple, d'étirer la dose, vous en pensez
quoi? Ça, c'est pas acceptable. On dirait jamais à quelqu'un qui a un problème d'hypertension, mais là, j'en ai pas assez pour mettre dans ta petite boîte, là, prends-en une sur deux. Une bouteille d'estrogène, qui est une espèce de pompe, c'est fait pour durer un mois. Si ça dure plus qu'un mois, c'est parce qu'on l'utilise pas adéquatement. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pas bien dormir, qu'on va être fatigué, qu'on va avoir des bouffées de chaleur, qu'on va être déprimé, qu'on va avoir des douleurs articulaires, qu'on va avoir des palpitations, qu'on va avoir tout ça qu'on s'était tellement heureusement débarrassé avec un traitement adéquat.
Mais là, on fait quoi dans les circonstances si le traitement n'est pas disponible ou ne le sera pas avant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois?
Bon, tout d'abord, je pense que le devoir a mis le doigt sur le bobo. Là, il y a quand même d'autres gels qui sont disponibles. Et là, bon, on rentre dans les négociations du pharma et du gouvernement. Là, j'ai pas les secrets d'État par rapport à ça, mais il y a un autre gel d'une compagnie qui est canadienne avec un siège social à Montréal. Moi, je croyais au panier bleu. Là, je pensais qu'on avait appris avec la COVID qu'il faut être autonome dans notre gestion du médicament le plus possible et d'essayer d'avoir des prix acceptables, surtout quand c'est fait ici. Là. Donc, ce fameux gel-là, ben malheureusement, il est offert juste aux femmes qui ont la chance d'avoir des assurances privées. C'est à peu près 50% de la population. Et les autres, ben, elles doivent se retourner vers de passer à des médicaments par la bouche qui sont pas mauvais. Mais quand on est habitué d'avoir un médicament qui a finalement trouvé une solution à nos problèmes, on change pas la recette.
Mais juste comprendre ce que vous me dites, la RAMQ couvre un traitement, il y a d'autres traitements qui existent, dont celui dont vous me parlez, là, fait par une entreprise. Celui-là n'est pas couvert par la RAMQ. Pourquoi? Parce qu'il coûte plus cher que l'autre? Parce que...
Probablement. Moi, je n'ai pas été impliquée dans ces négociations-là, mais habituellement, c'est toujours une question de coût ou d'entente. C'est quand même surprenant. Maintenant, aujourd'hui, là, on a des pénuries d'à peu près tous les médicaments. Donc, quand on décide de courir juste un médicament et de donner le monopole à une compagnie, ben, on ne faut pas être surpris qu'il y ait des ruptures de stock. Et à ce moment-là, c'est le rôle de l'INES, c'est le rôle de la RAMQ de trouver des solutions lorsque la pénurie est là. Présentement, c'est clair. Toutes celles qui ont des assurances se transfèrent sur l'autre gel qui a peu de choses près similaires, qui est un peu une façon améliorée parce que le dosage est beaucoup plus précis dans des petits sachets, là, mais qui coûte évidemment plus cher. Donc, c'est pour ça que les assurances payées privées le couvrent, mais pas la RAMQ présentement. Et nous, ce qu'on pose comme question, pourquoi vous avez besoin de tout débalancer, nos femmes qu'on a finalement rendues confortables avec des prescriptions, si on a un équivalent, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça dure les pénuries. Des fois, ça peut être quelques semaines, mais des fois, ça peut être quelques mois aussi.
En tout cas, dans le cas, ce que je comprends ce matin, c'est que c'est au moins pour encore plusieurs semaines, là, peut-être quelques mois même.
C'est long, plusieurs mois sans dormir.
Oui, c'est clair. C'est quoi le nom de la compagnie montréalaise dont vous me parlez?
C'est Searchlight. Ben, c'est une compagnie canadienne, mais son siège social est à Montréal et eux distribuent depuis quand même quelques années. Là. Ce serait ce qu'il y aurait de plus simple. Bon, certaines patientes m'ont dit qu'il y avait leur pharmacien leur avait parlé de faire une espèce d'équivalent en attendant, puis tout ça. Vous savez, c'est complexe, le médicament. Puis ça coûte cher aussi. Là. On comprend là, que la RAMQ veut essayer de toujours trouver les prix les plus bas. Mais il reste quand même que les femmes, c'est quand même 50% de la population. On va tous vieillir un jour, si c'est pas déjà fait. Et quand on a un traitement qui nous permet de sentir mieux, puis de rester au travail. Vous savez, l'Angleterre, on fait un travail extraordinaire avec la ménopause et le patronat pour qu'il y ait des heures flexibles quand les femmes ont des problèmes d'insomnie parce que, bon, évidemment, c'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir accès à l'hormonothérapie. Parfois, il peut avoir des contre-indications, comme si on a déjà eu un cancer du sein. Donc, il faut trouver des solutions. Ça peut être une période de transition qui est longue et difficile. Mais le patronat a vraiment été sensibilisé à garder les femmes sur le marché du travail. Et ça, on va en être tous gagnants. Juste si on regarde un modèle économique, là, les quelques dollars de différence entre les deux gels, là, ça devrait même pas être un enjeu.
Docteur Francoeur, merci. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Docteur Diane Francoeur, qui est obstétricienne, gynécologue, elle travaille à Sainte-Justine, a été présidente également de la Fédération des médecins spécialistes et beaucoup de commentaires, beaucoup de courriels d'auditrices ce matin qui se sont fait dire d'étirer le médicament là, ou le traitement plutôt. C'est pas une bonne idée, vous l'avez entendu. Puis il y a peut-être des situations alternatives. Combien de temps ça va durer? Dur à dire. Certains parlent de quelques semaines, d'autres pensent que ça pourrait être plus long. Mais c'est sûr qu'il y a eu comme une vague qui a suivi à la fois le documentaire de Véronique Loutier, puis en même temps le fait que la RAMQ décide de rembourser.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
OK, on va faire le point sur le dossier des rats à Montréal, parce que il y aura un point de presse ce matin de l'opposition qui demande à la Ville d'avoir un plan d'action plus efficace. On sait tous que la Ville de Montréal a décidé de bannir des rongicides à l'extérieur l'an dernier. Puis que la conséquence de ça, ben ça a été la prolifération des rats. Puis là, je pense que la Ville en prend conscience. Puis vous le savez, quand je parle à l'extérieur, il y a eu des cas au parc Émilie-Gamelin, dans certains secteurs industriels. Même au centre-ville, il est pas rare, là, peut-être pas à moins 25, là, mais de croiser des rats qui circulent. Puis là, tu fais le saut. On a toujours cohabité avec les rats dans une grande ville. Mais c'est un phénomène là qui a comme pris de l'ampleur. Nathaniel Livé est avec nous. Il est exterminateur et copropriétaire des entreprises Maheu. Monsieur Livé, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, d'abord, là, donnez-moi le portrait le plus juste que vous avez en tête là, de la situation des rats à Montréal. Est-ce qu'il y en a plus? On les voit plus? Qu'est-ce qui se passe?
OK, oui, c'est vrai qu'on me dit souvent là, tu sais, que dans les grandes villes, il y a des rats, mais il faut savoir les contrôler efficacement. Comme certaines grandes villes le font déjà. C'est un enjeu qu'il faut pas prendre à la légère, parce que la présence de rats peut avoir un impact sanitaire lié à la transmission de maladies, puis ça peut générer des dégâts aussi au niveau des entreposages, des immeubles. On a vu une prolifération depuis le 1er janvier 2022, mais juste avant ça, je voulais vous dire, mon père, M. Harold Lévé, décédé en mars 2022, là, c'était le président des entreprises Maheu Extermination. C'est une personne très médiatisée, puis c'était la référence au niveau des spécialistes en gestion parasitaire, au niveau des médias, puis des autorités publiques aussi. En 2018, je me souviens qu'il travaillait sur l'élaboration d'un plan d'action avec des gens de la ville de Montréal, parce qu'il y avait déjà une problématique importante de rats à Montréal. Puis il croyait depuis longtemps que c'était la solution, mais ce plan d'action-là n'a jamais eu lieu. Parce que ça n'a pas été adopté.
Mais ça disait quoi?
On est rendu là aujourd'hui.
OK.
Là.
Ça disait quoi, ce plan d'action que votre père avait mis sur pied?
Ben, c'était un plan d'action qui donnait les procédures à suivre lorsqu'on a un chantier de construction, des procédés à suivre lorsqu'un citoyen appelle à la ville pour dire qu'il y a de la présence de rats à tel ou tel endroit. Il y avait des procédures à suivre. La ville devait appeler soit un exterminateur puis mettre des boîtes sécuritaires avec des poisons, ou soit, aussitôt qu'il y avait un chantier de construction, systématiquement, on devait installer des boîtes avec des rongicides installés par un professionnel encore une fois. Il y avait de l'installation de poison aussi à l'intérieur des systèmes d'égout à l'occasion dans certains secteurs. Les égoutiers venaient avec nous pour cibler les endroits qui étaient plus à risque ou ce qui avait décelé de la présence de rats.
Est-ce que je comprends que avec la décision de l'an passé de la ville, on a laissé tomber le poison puis on a dit on va les tuer avec des trappes?
Ben, c'est ce qu'on a voulu faire, puis c'est ce qu'on a voulu, avec un virage au vert, on a voulu prioriser la trappe plutôt que le poison, parce qu'il y avait une accumulation au niveau de la chaîne alimentaire. Ça, c'est moins mon métier de déceler s'il y a de l'accumulation au niveau de la chaîne alimentaire, mais c'est ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu un impact là au niveau de la présence de rats à Montréal. En tout cas, de la présence de rats, parce qu'il y en a dans tous les égouts de toutes les grandes villes. Mais il faut être capable de les contrôler. Là, on perd le contrôle un peu.
Parce que la perception qu'on a, à tort ou à raison, là, c'est qu'on les voit plus qu'avant.
Oui, c'est ça. Ben, il faut jamais oublier qu'on n'a pas affaire à un animal ordinaire, hein, comme n'importe quel autre petit rongeur. Le rat, il a une maturité sexuelle de 2 mois, à 2 mois de vie. La femelle peut avoir 6 portées par année, environ 6 à 12 bébés par portée. Donc, 50 bébés par année. Si on parle juste d'un couple de rats. Puis on va même estimer que ce même couple de rats-là pourrait engendrer 5000 individus par année. Ça, c'est si les conditions lui permettent. Fait. On perd le contrôle rapidement quand on veut modifier une procédure qui fonctionne déjà.
Et là, avez-vous des contacts avec la ville? Là, je sais qu'il y a le point de presse d'opposition, mais est-ce qu'ils vont finalement élaborer un plan, là, disons, plus concret, plus efficace?
Mais là, on a le parti Ensemble Montréal ou Opposition Montréal là, qui revient à la charge avec la même proposition qui avait été proposée en 2018. Mais avec des arguments supplémentaires, parce que là, il y a une présence de rats plus importante depuis la pandémie 2020, puis depuis la nouvelle réglementation aussi, depuis le 1er janvier 2022, encore plus. Puis aujourd'hui, ben là, je suis celui qui vient de contacter, qui m'ont contacté pour que j'assiste à la conférence de presse ce matin, là, à titre de spécialiste à mon tour.
Mais, moi dire, comme vous, ça se reproduit comme des lapins, ça? Et plus vite que des lapins,
oui.
Là?
Oui, puis aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des rats à Montréal, même il y a 10, 15 ans, 20 ans. À l'époque, il existait des poisons beaucoup plus forts là, qu'aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on veut dire à la ville qu'il y a autre chose à faire que de mettre des poisons aussi. Le contrôle des rats, là, ça passe avant tout par la prévention. La ville, elle doit se doter d'un plan d'action, puis ça, on le pense depuis longtemps, là, comme plusieurs grandes villes le font déjà. C'est un peu comme un... c'est des questions d'éducation aussi, j'allais dire. Les gens doivent être éduqués au niveau de la gestion des poubelles, de garder l'environnement propre, de désencombrer le tour des bâtiments. C'est ce qu'on voit pas à Montréal. Là.
Ben, merci de vos conseils, M. Livé. Bonne journée à vous.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bonne journée, M. Arcand.
Bonne journée. Nathaniel Livé, exterminateur et copropriétaire des entreprises Maheu. C'est vrai que son père était une sommité, malheureusement décédé. Mais je pensais pas que ça se reproduise aussi.
Non, plus.
C'est dégueulasse.
C'est...
Oh, les frissons.
Oui, moi aussi.
OK, ils sont deux, ça donne 5 000 à la fin de l'année. Là.
Oui, c'est... Ça cupule pas mal. Hein?
Ah, m'a dit qu'ils s'en posent à faire des égouts. Mais
ouais,
c'est
ouais.
La généalogie active du rat. Mais c'est vrai qu'on les voit plus.
Oui.
Ah oh, oui.
C'est clair. Là,
ça,
c'est
des spectacles tout près de
Émilie Gamelin.
Moi, là.
Ah, non, non.
Chez nous, là, et tu sors le soir, puis il y en a, là, même l'hiver. Dégalasse.
C'est fait. Oui. C'est parlé, c'est réglé.
C'est 23.